Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins sur RFI. Aujourd'hui, tourisme et terrorisme. Les économies du voyage peuvent-elles s'adapter aux risques désormais permanents? On pense à la Tunisie, à l'Égypte, à la Turquie, au Mali, au Cameroun, mais aussi à la France. Tous ces pays et d'autres encore font face à la menace terroriste. Quel impact sur le tourisme et l'économie locale, en particulier pour des pays en développement qui vivent en partie de ce secteur? Quels sont les nouveaux comportements, nouveaux choix des touristes? Et quant à vous les voisins, que constatez-vous dans votre pays? Ces économies du tourisme, c'est-à-dire les hôtels, les restaurants, les guides, peuvent-elles se transformer pour rebondir ou du moins survivre? Appelez-nous dès maintenant si vous avez envie de participer aux discussions et surtout si vous travaillez dans ce secteur au 33 1 84 22 71 71. Dans le studio des 7 milliards, j'accueille Kevin Girard, directeur général de Point Voyage, c'est l'ex.Afrique. Bonjour Kevin Girard.
Bonjour.
Le changement de nom de votre agence de tourisme en dit long déjà sur l'ambiance générale.
Oui,
hein, on en parlera.
Évidemment.
Également dans le studio, Saskia Cousin, anthropologue à l'Université Paris Descartes, Paris 5. Bonjour Saskia.
Bonjour.
Cousin. Vous avez publié une sociologie du tourisme et vous avez travaillé au Bénin, en Tunisie, notamment entre les attentats du Bardo et de Sousse. Bien sûr, on en parlera. Nous serons d'ailleurs en ligne avec le Tunisien Jalel Enchiri, qui est président de la Fédération du Tourisme à Djerba et vice-président de la Fédération Tunisienne de l'Hôtellerie. Nous entendrons aussi le témoignage d'un professionnel du tourisme au Mali, dans la région de Ségou. Et donc, quant à vous, les voisins et les voisines, je vous rappelle notre numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71. Le sujet du jour chez 7 milliards de voisins, tourisme et terrorisme. Je vous lis quelques messages postés sur les réseaux sociaux. Ange Bourra, qui est à Dakar, au Sénégal, nous dit que le tourisme est menacé. Mais, nous dit-il, je pense que tout le monde doit faire face, le gouvernement, mais aussi la société. Loya à Ouagadougou, au Burkina Faso, ou ici au Burkina, ce sont les grands hôtels, les restaurants, bien sûr, qui souffrent du terrorisme. Sinon, rien n'a vraiment changé dans les habitudes et les mouvements des gens. Un autre auditeur qui est à Yaoundé, au Cameroun, nous dit, je pense qu'au-delà de la peur, le terrorisme doit faire naître une nouvelle économie dans les zones attaquées, puis libérées. Combien de personnes seraient intéressées par la visite de Tombouctou et ses vestiges restaurés? Certainement un bon nombre. Alors évidemment, ça pose question, hein, on va en discuter. Hussein est à Dubaï, lui, et il nous dit, ici à Dubaï, évidemment, le tourisme continue. On pourrait rajouter que d'ailleurs, dans le Golfe, le sultanat d'Oman tire assez bien son épingle du jeu, où le tourisme se développe modestement, mais régulièrement. Vous n'êtes pas présent dans un pays comme le sultanat d'Oman?
Si, bien sûr.
Pour le Point Voyage.
Pour le Point Voyage, absolument. Oui, on est présent à Oman, et puis c'est un pays qui est tout à fait intéressant pour nous, bien évidemment, parce que malgré des voisins qui sont quand même trublions, hein, n'ayons pas peur des mots, entre le Yémen et l'Arabie Saoudite, néanmoins c'est un pays qui offre des grandes richesses touristiques et donc il nous intéresse à ce titre, mais aussi au titre sociologique, puisque c'est quand même un pays qui est très intéressant et le développement touristique, évidemment, est une des mannes qui est envisagée pour l'après-pétrole. Donc oui,
preuve qu'on peut avoir des voisins bruyants, problématiques, médiatiquement, géopolitiquement parlant, et parvenir à développer tranquillement, modestement, une petite cible pour les touristes, c'est ça?
Oui, visiblement, mais je veux insister sur le mot modestement, hein,
ouais.
Puisque là, on mobilise pas les masses, hein, malheureusement, même si on aimerait pour le pays, hein, bien sûr, mais c'est pas le cas encore, hein, donc c'est relativement modeste.
On parle du tourisme et du terrorisme, oui, drôle de couple. 33 1 84 4 22 71 71.
7 milliards de voisins, ça nous rapproche.
On est ensemble, c'est votre vie au quotidien.
Et la planète se barre.
Saskia Cousin, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le terrorisme constitue le premier facteur d'inquiétude pour les professionnels du tourisme?
Alors, ça dépend des pays, mais effectivement, c'est un élément qui, pour les pays qui sont touchés par le terrorisme, ou en tout cas où il y a une image où les touristes ont peur du terrorisme, c'est un élément déterminant. À Paris, il y a eu une étude qui vient de sortir. Évidemment qu'il y a eu des annulations d'hôtels, par exemple, après le 13 novembre, mais il y a notamment l'étude d'Office du Tourisme montre qu'il y a une capacité de résilience et de retour des touristes rapides dans toutes les grandes métropoles internationales. En raison de, enfin, plein de facteurs, notamment l'image de la ville, mais aussi parce que ce sont pas les touristes qui sont visés. Et donc, en ça, il y a une grosse différence avec les pays traditionnels touristes non européens, non occidentaux, où là, ce sont les touristes qui sont visés. Donc, les effets sur le marché du tourisme, sur l'industrie du tourisme, sont pas du tout les mêmes.
Alors, quand vous dites un effet résilience, ça s'apparente aussi un peu à ce côté, continuons à vivre normalement, la menace terroriste, finalement, est presque partout aujourd'hui dans le monde, même si c'est pas tout à fait vrai.
Alors,
c'est un peu ça dans la tête des touristes.
En fait, la question, c'est la capacité, enfin, c'est ce que montrent les études sur ces grandes métropoles, on peut pas aller ailleurs, on peut pas aller à Paris, ne peut pas être remplacé par autre chose, donc les gens vont continuer à aller à Paris. Quand c'est des destinations, et là je parle pas du tourisme solidaire, etc., mais par exemple en Tunisie, une offre hôtelière intégrée, où il y a une possibilité d'aller ailleurs, là les gens ne vont pas prendre le risque, et ça a des effets déterminants sur l'industrie du tourisme.
On va remplacer par les Canaries, on aura aussi de la plage et du soleil.
Ouais. La Grèce l'été dernier. Donc en fait, c'est aussi lié aux modèles qui sont mis en avant. Donc ça a des effets dévastateurs sur une certaine industrie, un certain modèle touristique. Et par ailleurs, ça a aussi des effets dévastateurs, par exemple en Pays d'Ogon, au Mali, ou plein d'autres, notamment en raison des classements zone rouge par les ministères, et puis évidemment le fait qu'on associe l'ensemble du Mali, par
évidemment,
exemple.
En quelques clics, on est vite renseigné sur l'état de la menace terroriste aujourd'hui. Kevin Girard.
Oui, moi je voulais juste réagir. C'est d'autant plus dévastateur que, si vous voulez, enfin le terrorisme a une empreinte qui est durable. Prenons le cas d'un pays qui n'a rien à voir et qui a été boudé là ces derniers mois et cette dernière année, qu'est le Népal, par exemple. On est dans le cas d'un tremblement de terre, donc d'une catastrophe naturelle où évidemment et momentanément, les gens ne se rendent plus au Népal, mais ils y reviendront, puisque en fait, il n'y a pas de résidu de peur qui est latent. Le terrorisme, c'est bien plus profond, il y a une empreinte qui est bien plus profonde, et c'est vrai que certains reviennent, bien sûr, à condition que ça se calme, mais si ça n'est pas le cas, non, les gens ont peur, tout simplement, quoi.
Justement, vous avez vécu la longue dégringolade du tourisme sur le continent africain, Kevin Girard. Votre entreprise coopérative, qui est un modèle assez économique assez particulier, misé sur le développement d'un tourisme solidaire en Afrique. Maintenant, ça s'appelle le point voyage et non plus le point Afrique. Comment vous avez vécu ces dernières années?
Très mal, évidemment, psychologiquement parlant, parce que en fait, ce continent, puisque point Afrique, par la force des choses, on s'adressait au continent africain, qui est notre passion avant tout. On l'a vu se dégrader d'année en année, et puis on allait de mal en pis, malheureusement, puisque en fait, un attentat en cachait un autre, ou une prise d'otage en cachait une autre, ou la peur, comment dirais-je, prenait le dessus, et donc évidemment, on l'a très mal vécu. Alors économiquement, c'est catastrophique, parce que pour vous montrer à quel point on a pu souffrir, en 2007, l'entreprise comptait une centaine de collaborateurs. Aujourd'hui, nous sommes plus que 3. Idem en 2007, au mieux de notre forme, on faisait voyager 70 000 personnes sur l'Afrique saharienne et sahélienne. Aujourd'hui, on compte par dizaines de voyageurs sur ces destinations uniquement. Donc forcément, oui, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour nous. Mais bon, peu importe, puisque là, éventuellement, les flux peuvent être différents. Mais c'est aussi une catastrophe pour nos équipes locales. Je pense à, vous évoquiez le Mali. Moi, je les ai presque quotidiennement au téléphone. Bon, voilà, c'est problématique pour eux, bien évidemment, quoi.
Alors justement, je vous propose que nous donnions la parole à des auditeurs. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Appelez-nous si vous êtes dans un pays où vous observez une déshérence des touristes, et surtout si vous travaillez dans ce domaine-là. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui nous appelle de Maroua, l'extrême nord du Cameroun. Bonjour Hassan.
Bonjour Emmanuel. En fait, par rapport au tourisme et au terrorisme,
oui.
ici au Cameroun et particulièrement à Maroua, mm-hmm. les touristes européens venaient visiter le mode de vie de peuple de cette partie du pays.
Oui.
Ils viennent également visiter le parc national de Waza.
Oui.
Ce parc contient les animaux tels que les éléphants, les girafes et les singes. Ils viennent également visiter le parc national de Kalamalwe.
Mm.
Kalamalwe, c'est un village qui est situé à la frontière du lac Tchad, à la frontière de N'Djamena.
Mm.
Et ce parc également contient les animaux tels que les singes, les éléphants et les singes.
Mm.
Ils viennent également visiter un petit village qui est également à la frontière du Tchad. Et ce village contient les objets d'art.
Ouais.
Et ces objets d'art ont été construits par les Sao.
Mm.
Il y a également les objets que le résistant tel que Rabat.
Ouais.
Il y a les objets de Rabat à l'époque coloniale
mm.
qui ont été laissés dans ces villages et ces touristes venaient visiter cette partie du pays.
Oui, alors vous dites bien, venez à San, hein. En tout cas, merci de nous rappeler toutes ces splendeurs qu'on peut admirer dans cette région, parce que hélas, depuis les différentes vagues d'enlèvement, de kidnapping, etc., votre région est tout à fait, avec la menace Boko Haram venue du Nigeria, est tout à fait victime de la menace terroriste en ce qui concerne ce petit marché du tourisme. Hein. Faut rappeler que le Cameroun n'a jamais été une énorme destination touristique. Néanmoins, il y avait effectivement des touristes et pas seulement des expatriés qui profitaient du week-end. Comment vous vivez ce problème-là, Hassan ?
En fait, nous, on avait constaté que depuis 2013, où les touristes français ont été enlevés oui. par les terroristes, ce terrorisme a complètement diminué à Maroua.
Ouais.
Et maintenant, avec l'insécurité, les différentes attaques et les attentats, les touristes ont abandonné cette partie du pays. C'est-à-dire que les Sénégalais, ils ont abandonné complètement.
Ouais. Mmh. Oui, vous employez bien le mot abandonné, Hassan. Merci beaucoup de nous avoir appelé. Est-ce que, Kevin Girard, vous avez le sentiment aussi que sur place, les gens ressentent vraiment un sentiment d'abandon, même si en réalité ces menaces terroristes font sûrement moins de morts que les accidents de la route, hein, il faut le rappeler néanmoins.
Bien sûr, ou pas du tout, ou pas du tout
de
morts.
Pas du tout, hein, bien sûr.
Bien sûr qu'ils ont le sentiment d'abandon parce qu'ils ne comprennent pas toujours, évidemment, puisque le sentiment de peur est un sentiment qui s'explique pas forcément, puisqu'il faut vivre dans le pays pour ressentir les pressions. Enfin, je parle de la France, hein, parce que nous on commercialise nos circuits exclusivement en France, et il faut. Pour cela, il faut le comprendre. Et c'est vrai que nos interlocuteurs, et notamment nos interlocuteurs africains, souvent nos guides, nos cuisiniers, notre staff là-bas ne comprennent pas parce que disent mais on comprend pas, il se passe rien ici, et vous nous abandonnez.
C'est le cas pour la Mauritanie, notamment.
C'est, par exemple, voilà, c'est le cas pour la Mauritanie où les efforts sécuritaires ont été entamés depuis 2009 de façon vraiment conséquente. Et puis aujourd'hui, bah oui, il se passe absolument plus rien. Mm. C'est-à-dire qu'il est plus dangereux aujourd'hui, oui, en effet, de prendre sa voiture et de se rendre.
Il s'agit pas de dire aux touristes qu'ils ont tort de ne pas venir, hein, bien évidemment. Mais c'est on voit bien que la question est tout de même compliquée.
Bien sûr.
Je vous propose aussi d'écouter. Écoutez, avant qu'on rende l'antenne pour le flash, le témoignage au Mali, hein, de Mamoudou Diarra, qui est au Mali. Il travaille à 350 km à l'est de Bamako, après la ville de Ségou, sur les rives du fleuve Bani. Il est responsable des ressources humaines de Teria Bougou, qui est un centre de développement rural et de tourisme solidaire, qui vise à soutenir les communautés du coin avec des activités touristiques et hôtelières, agricoles, énergétiques. Ça a été créé dans les années 70. Le centre a évidemment connu une fréquentation importante jusqu'au début des années 2000, et puis les choses se sont gâtées à partir de 2011 et des premiers enlèvements d'occidentaux au Mali. Il est au micro de David Bachet.
À partir de 2011, avec les attentats de Hombori, plus ceux de Tombouctou.
Ça, c'était des prises d'otages.
Les prises d'otages. La clientèle a commencé à baisser depuis cette période, plus la crise. Nous avons dû licencier presque la moitié du personnel.
Vous avez dû licencier la moitié du personnel depuis 2011, depuis avant même le coup d'État en fait.
Oui, depuis le 30 septembre 2011. À cause de la menace terroriste, le chiffre d'affaires a pratiquement été devenu nul. À l'époque, on avait 87 salariés, permanents et non permanents. Aujourd'hui, nous sommes au nombre de 35, non permanents et permanents.
Ça veut dire qu'en plus, vous avez des travailleurs journaliers.
Journaliers, on a des travailleurs journaliers qui s'occupent du nettoyage ou d'autres activités.
Et comment fonctionne ce centre financièrement?
Nous sommes subventionnés par l'association des Amis du Père Vespérin.
Donc l'association des Amis du Père fondateur du centre, qui est en France.
Fondateur du centre. L'État malien, qui finance l'enseignement. Les ressources propres, ça issu de la vente des produits du bois, le charbon de bois, les fruits, les recettes de l'hôtel.
Parce que vous avez aussi un gros centre hôtelier ici pour accueillir les touristes.
Voilà, un centre de tourisme solidaire. Donc nous avons environ 27 chambres. 2015, c'est quand même une bonne année. On a eu de la chance parce que ça fait 3 ans qu'on n'a personne à l'UN jusqu'au 1er janvier.
Combien de personnes à peu près?
Bon, je ne saurais le dire avec précision. Peut-être 500 ou 600 personnes.
Ce n'est pas petit?
Non, ce n'est pas petit. Parce qu'en début d'année, vers Pâques, de l'année dernière, on avait 150 étudiants qui ont fait 2 jours ici.
Vous accueillez des groupes principalement maintenant?
Oui, nous accueillons des groupes, des écoles, des séminaires.
Auparavant, cet hôtel, ça rentrait pour beaucoup dans le financement du centre Teriabougou, ça a changé?
Ouais, on avait atteint presque 75% d'autofinancement grâce à l'hôtel.
Et aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est peut-être 15 ou 20%. Effectivement, nous souhaitons que la paix revienne définitivement dans ce pays pour que les choses reprennent.
Vous nous avez expliqué que, à cause de tous ces problèmes, il vous avait fallu licencier la moitié du personnel. Oui. Quel impact ça a eu sur les activités qui sont développées ici à Teriabougou?
Une forte baisse des activités parce que, bon, déjà, le nettoyage, vous savez que le centre était trop grand. Bon, à l'hôtel, il y avait environ 24 personnes.
Ça veut dire que le centre a été un peu laissé à l'abandon. Il y a eu des difficultés pour enlever les branches sur les pistes, ce genre de choses?
Effectivement, il y a eu beaucoup de difficultés depuis 2011 jusqu'à ce jour. Mais bon, les choses commencent à repartir doucement, doucement. Donc, on a quand même de l'espoir pour que, bon, peut-être un jour, que dans 1 ou 2 ans, je pense que ça va repartir.
Voilà, c'est bien de donner la parole aussi à ceux qui souffrent vraiment d'une désertification du tourisme dans ces pays-là, dans cette région-là, au Mali, qui connaissaient, là aussi, c'était pas un tourisme de masse, hein, vous êtes bien placé pour le savoir, Kevin Girard, puisque le Point Afrique envoyait des touristes, mais c'était un tourisme engagé, solidaire.
Oui, tout à fait. Bon, là, voilà, c'est typiquement, en fait, le pays qui est le plus terrible pour nous puisque c'est notre destination historique, hein, c'est par cette destination et notamment à Gao, hein, par laquelle on a commencé
dans le nord du Mali.
Dans le nord du Mali, en effet. Et c'est vrai que c'est terrible aujourd'hui parce que, alors, d'une part, évidemment, les gens ne souhaitent pas y retourner, c'est-à-dire les touristes ne souhaitent pas y retourner, mais d'autre part, il faut insister parce qu'il faut faire le distinguo entre 2 types de destinations, celles pour lesquelles les touristes ne veulent pas aller et puis celles pour lesquelles les tour opérateurs ne veulent pas prendre le risque. Et là, on est exactement dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même nos correspondants du Nord Mali, notamment, puisque nous, on était très implantés dans le Nord Mali, nous disent « ne venez pas ». Même en visite de courtoisie nous-mêmes, ils nous disent « non, ça n'est pas encore prêt, ne venez pas ». Alors, évidemment, à tort ou à raison, je ne saurais vous le dire, parce que moi, je ne suis que voyagiste. Néanmoins, et par la force des choses, on ne souhaite pas prendre de risque pour nos touristes. Évidemment. Quoi.
Alors évidemment, Kevin Girard, Saskia Cousin, vous restez avec nous, on va poursuivre la discussion après le flash, hein, mais les touristes changent de destination, le malheur des pays fait le bonheur des autres, hein, on en a déjà dit quelques mots, vous tournez par exemple vers de nouvelles destinations qui émergent, Cuba qui a toujours été, bon, enfin là qui est à la mode, la Birmanie, l'Iran peut-être, y a-t-il pour ces pays sinistrés du coup, qui pâtissent de la désertification des touristes, d'autres options à envisager pour reconvertir ces métiers pour ces professionnels du tourisme? Les voisins et les voisines, si vous travaillez dans le tourisme et que votre métier est menacé par le terrorisme, vous pouvez bien sûr nous appeler au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, nous parlons du tourisme et du terrorisme. Effectivement, une drôle d'association qui est obligée maintenant, vaille que vaille, de cohabiter. L'économie du voyage peut-elle s'adapter et les touristes avec? Saskia Cousin, vous êtes dans le studio avec nous. Vous êtes sociologue et anthropologue du tourisme. Kevin Girard, vous êtes directeur général de Point Voyage, qui s'appelait autrefois Point Afrique. Évidemment, ce n'est pas le signe de votre désamour pour le continent africain, mais de la situation géopolitique sur place. Globalement, on peut dire que tout le bassin méditerranéen et l'Afrique subsaharienne est particulièrement touché. On va parler de l'Égypte, de la Tunisie, qui a perdu, ces deux pays qui ont perdu plus du tiers en moyenne de leur fréquentation touristique et près de 50% des vacanciers occidentaux. Je voudrais qu'on revienne sur l'Afrique subsaharienne, puisqu'on entendait le témoignage de ce responsable de centre dans la région de Ségou, évidemment, où l'inactivité est notoire au Mali. Saskia Cousin, vous allez régulièrement au Bénin, vous avez vécu également au Bénin, vous souhaitiez réagir.
Oui, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes, mais pour ce qui concerne le Bénin, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un pays où il y a, a priori, à ma connaissance, jamais eu d'attentat. Voilà, il a été impacté, notamment le classement en zone rouge du Nord, qui est toujours le cas, au parc W.
Un
parc animalier, où allaient la plupart des touristes qui passaient par des tours opérateurs. Et moi, je vivais à Port-Novo, à 9 km du Nigeria, et j'avais pas du tout un sentiment d'insécurité. Alors, évidemment, je vois depuis la France, les gens qui s'inquiétaient pour nous, pour Ebola, pour Boko Haram. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand il y a eu les attentats de janvier 2015 à Paris, puis ceux de novembre, ce sont mes amis béninois qui m'appellent en permanence parce qu'ils sont inquiets pour nous, pour notre famille, de ce qui se passe en France. Et donc, je voudrais revenir sur le fait qu'il y a quand même la question de la peur, elle est importante, et que souvent, les touristes occidentaux ont une image, une idée que l'Afrique, c'est une sorte de pays, et que donc, un attentat peut se passer à 3000 kilomètres. Ça va toucher dans les imaginaires l'ensemble du continent. Alors que, ben voilà, il y a pas de risque à aller aujourd'hui au sud du Bénin.
Il y a de l'irrationnel, bien sûr, dans toutes ces questions-là, Kevin Girard.
Oui, forcément. Alors, il y a de l'irrationnel, il y a de la méconnaissance, hein, beaucoup, pour beaucoup. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire, je pars en Afrique, par exemple, pour parler du continent africain. Alors que, bon, évidemment, du nord au sud, d'est en ouest, c'est énorme. Et puis, les problématiques sont différentes, les cultures sont différentes, les religions sont différentes. Et évidemment, on peut pas généraliser. Mais il y a une méconnaissance, en fait, globale, évidemment, à part quelques pointus, évidemment, qui veulent aller à tel endroit et qui, de toute façon, n'en démordent pas. Ils sont presque mieux renseignés que nous, j'exagère, mais c'est un peu ça.
Vous pensez à vos touristes que vous continuez d'envoyer vraiment par toute petite poignée au Tchad, c'est ça?
Par exemple, parce que là, on est typiquement dans un pays qui a des voisins qui sont trublions. On est dans un pays qui vient de subir des attentats meurtriers de la part de Boko Haram, même si le conflit armé se passe en dehors des frontières, plutôt sur le Niger et puis sur le Nigeria. Il n'empêche que, les gens ont peur globalement, certes, d'aller au Tchad, à part cette poignée de plus téméraires, d'initiés, mais surtout
initiés. Et qui veulent se rendre dans une zone spécifique.
Qui est souvent, en fait, nous, on fait des circuits en réalité au nord, puisqu'en fait, c'est le nord qui offre des joyaux géologiques, notamment. Et puis, c'est tellement éloigné, entre guillemets, de la capitale, sur le plan pratique, sur le plan infrastructurel, que c'est presque une barrière naturelle qui nous protège quelque part. Et donc, on n'est pas plus en insécurité qu'ailleurs, quoi, évidemment.
Qu'à Paris. Alors là, évidemment, on citait des pays qui ne sont absolument pas connus pour leur tourisme de masse. Je voudrais maintenant qu'on en revienne aux vraies grosses victimes du terrorisme dans le domaine du tourisme. La Tunisie, bien sûr. On est en ligne avec Jalel Anchiri, président de la Fédération du tourisme à Djerba et vice-président de la Fédération tunisienne d'hôtellerie. Bonjour Jalel Anchiri.
Oui, bonjour madame.
Où en est le tourisme en Tunisie aujourd'hui?
Le tourisme en Tunisie, il est dans un état grave, malheureusement. C'est une période très très difficile. Et je pense qu'on doit profiter pour revoir un peu et pour peut-être mettre à niveau un peu et s'adapter aux nouvelles données internationales du marché.
Alors pour recontextualiser un petit peu, Jalal Nchiri, vous étiez parvenu tant bien que mal à remonter la pente du printemps arabe. Hein. Néanmoins, le coup de grâce, c'est bien sûr, ce sont les attentats contre le musée du Bardo à Tunis en mars dernier, et surtout en juin dernier dans la station balnéaire de Sousse.
Oui, oui. Écoutez, je pense que, oui, on a 2011, malgré après la révolution, on a eu quand même un été assez... les hôtels étaient pleins, les gens sont venus en Tunisie, malgré le changement, malgré aussi pendant cette transition, il y a eu une désorganisation de la sécurité, de l'administration, de l'accueil et tout. Mais on a quand même continué à recevoir. Oui, c'est un très grand coup, ce qu'on a eu en 2015, qui nous a touchés. Mais là, je voudrais insister que le potentiel existe parce que nous avons toujours des hôtels ouverts, nous avons toujours un peu de demande pour l'été. Nous savons aussi les choses qu'il faut faire pour que les choses s'améliorent. Il faudrait un peu de temps.
Alors, qu'y a-t-il dans ces hôtels aujourd'hui ? Qui vient dans ces hôtels à l'heure actuelle ?
De toutes les nationalités, français, même par exemple les restrictions de nos amis belges. Il y a, on, dans le sud tunisien, à Djerbaz, à Arsis, on a quelques revenants pour la saison belge, on a des Allemands, on a des Tchèques, on continue à recevoir pas mal d'Européens. C'est-à-dire, écoutez, la demande pour notre pays existe, la demande latente existe. Maintenant, c'est une peur vis-à-vis de quatre pays à connotation musulmane, mais je pense que nous aussi, de notre part, on doit travailler, mais moi, on y croit beaucoup et on y travaille, on essaie de restructurer, on essaie de préparer.
J'ai dit à votre quand vous dites restructurer, justement, quand vous dites, Jalal Nchiri, restructurer, quelles sont les solutions envisagées? Vous aviez jusque-là un modèle de tourisme familial, bon marché, un tourisme de masse. Ce modèle doit-il se transformer? Et dans ce cas, vers quoi et comment?
Non, ce modèle-là, c'est le plus grand gisement pour de tourisme, mais pas seulement.
Le plus grand gisement, si vous misez sur les touristes occidentaux, mais ce sont précisément ceux-là qui sont partis.
Non, mais ceux-là, ils sont partis provisoirement jusqu'à ce qu'on arrive à... Ils sont pas partis d'abord définitivement, ils sont partis, mais on doit rétablir de l'ordre. Et je vous dis, par exemple, on a des exemples très simples. On peut, maintenant, il y a... Le terrorisme est devenu une donnée importante dans le tourisme mondial. La semaine dernière, on était à Madrid avec l'Organisation mondiale du tourisme. Le plus grand sujet, c'est la sécurité des lieux partout dans le monde, c'est pas uniquement en Tunisie. Donc, les gens doivent maintenant adapter leur modèle puisque les terroristes ou ceux qui les manipulent, c'est des stratèges. Ils ont touché un des plus grands secteurs dans le monde. Le secteur qu'ils ont appelé dans l'Organisation mondiale le secteur de la vie.
Oui, qui représente 7% du PIB chez vous, à peu près, hein.
Même plus. Non, nous, on vient d'arrêter une étude. Il va avec le direct, l'indirect, avec les comptes satellites. Ils peuvent atteindre 15-16%. Et dans le sud, il atteint beaucoup plus. Parce que le sud, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'agriculture. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que aujourd'hui, on doit se restructurer. On peut créer des safe cities. Des cités, par exemple, des grandes zones touristiques où ça devient comme un grand aéroport.
Des bunkers. Des bunkers touristiques.
Non, pas du tout. L'aéroport n'est pas un bunker. L'aéroport a des milliers de personnes, mais il faut faire très attention. Et il faut aussi sécuriser les frontières terrestres. Il faut un peu de vigilance. Les gens doivent vivre avec ça. De toutes les façons, le risque zéro n'existe pas, mais les gens doivent les attentats bêtes et méchants comme ça, gratuits, doivent être évités. Mais on aurait dû éviter le Bataclan. Je pense qu'on aurait rien pu faire, ça existe, mais il faut pas qu'il y ait des erreurs ou une erreur bête ou n'importe qui pense qu'il peut facilement faire quelque chose.
Ouais. Restez en ligne avec nous, Jalal Nchiri. Saskia Cousin, vous avez enquêté entre les attentats du Bardo et les attentats de Sousse, hein, dans cette période-là, en Tunisie.
Oui, enquêté. Enfin, j'ai surtout recueilli un certain nombre de témoignages. J'étais en avril, donc après les attentats du Bardo, dans un hôtel. Enfin, j'étais dans différents endroits, notamment dans un hôtel qui normalement à Carthage est plein. Et bon, il y avait que des gens qui venaient pour la chirurgie esthétique, concrètement. Alors, il peut être considéré comme des touristes, mais voilà, c'était du tourisme médical et des sportifs d'origine tunisienne. Je crois qu'il faut insister sur le fait qu'il ne faut pas non plus confondre produits touristiques et hôtellerie. Et que peut-être que la Tunisie a à réfléchir sur son modèle hôtelier, mais que le tourisme, ça n'est pas que l'hôtellerie, et que de toute façon, il y a un problème mondial sur la question de l'hôtellerie, qui est, on va dire, mis en défi, notamment par des opérateurs comme Airbnb, mais donc au-delà du terrorisme. Mais la question de la Tunisie, c'est ça n'est pas que la question de l'hôtellerie. Je pense que ce pays a aussi autre chose à mettre en avant. Moi, j'ai découvert une vie culturelle, artistique absolument phénoménale, qu'on n'imagine pas du tout ici, une vie nocturne, des concerts punk, enfin tout ce que vous pouvez imaginer d'une vie nocturne qui est plus palpitante qu'à Paris. Et donc je pense que mettre l'accent sur le fait de la sécurisation d'hôtels qui, de toute façon, enfin on le sait, ont une durée de vie, hein, c'est des modèles qui ont une certaine durée de vie. On peut aussi travailler sur l'offre, enfin sur changer l'image d'un pays, parce que quand on est sur place,
sur une forme de tourisme un peu soluble dans la vie local, hein, à Carthage par exemple, dans une vie culturelle qui est riche, où les touristes seraient solubles dans une jeunesse tunisienne qui sort le soir par exemple.
Alors pour le coup, cette vie-là, elle n'était pas tellement à Carthage, c'est plutôt à Tunis, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, pendant longtemps, on a considéré que les touristes, fallait les mettre à l'abri entre eux, enfin, pour ce type de modèle, et ce qui les protégeait, c'est qu'ils soient entre eux. On voit que c'est l'inverse, c'est qu'ils sont des cibles. Donc la question de la continuation, pour faire venir des gens, c'est peut-être aussi de les... Enfin, justement, qui fassent partie de la vie culturelle, comme c'est le cas à Paris finalement, où voilà, ils sont intégrés, ils ont des pratiques culturelles, ils vont à l'hôtel.
Le concept de tourisme soluble, oui, Jalal Nchiri, vos réactions là-dessus?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Tourisme, c'est pas hôtellerie. Et d'ailleurs, c'est notre vision de nouvelle génération du tourisme. Nous, on veut un tourisme intégré. Je suis d'une région qui s'intègre très très bien avec son environnement. On n'a jamais mis en cause les autres religions. Nous, à Djerba, nous avons de très belles mosquées, nous avons de très belles synagogues. Ce sont les cibles privilégiées de tous extrémistes tout bord. Mais je pense, je suis tout à fait d'accord avec madame, Tunis, il y a plein de choses à faire, il y a plein de cultures, il y a plein de circuits. La Tunisie est une destination d'aussi, elle a dit, de voyage sportif, elle est une destination de santé, elle est une destination culturelle par excellence, c'est-à-dire, là, les circuits, on les connaît. Et nous, on voudrait réintégrer ça, puisque on avait une évolution de nombre de lits extraordinaires qui a suivi une demande extraordinaire aussi, il faut dire la vérité. Et aujourd'hui, on va s'adapter, mais il y a des prix primaires. Et quand j'ai dit city, je ne veux pas dire une bureaucratisation des hôtels, mais des zones où il y a des contrôles spécifiques, où les gens réfléchissent avant de faire quelque chose, où moi j'ai bien dit c'est
dans une politique pour rassurer les touristes. Merci beaucoup Jalal Nchiri d'avoir été en ligne avec nous, effectivement, et puis bonne chance pour tous ces chantiers qui vous attendent. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération du Tourisme à Djerba et vice-président de la Fédération Tunisienne de l'Hôtellerie. Merci infiniment. Alors, on n'a pas encore parlé de l'Égypte, Saskia Cousin, qui est dans une situation aussi dramatique que la Tunisie. L'Égypte ne s'est jamais vraiment relevé, là, pour le coup, du printemps arabe. Le tourisme est à l'agonie avec le crash d'un avion de ligne russe dans le Sinaï, et puis il y a eu l'attentat contre un hôtel d'Hurghada. Le nombre de visiteurs a énormément chuté ces cinq dernières années, on dit de plus de 30%, voire peut-être encore plus. Il faut distinguer ce qui se passe en Égypte et en Tunisie pour le tourisme, pour vous, Saskia Cousin.
Ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte, la différence, c'est quand même aussi la question politique du régime. C'est-à-dire qu'en Tunisie, aujourd'hui, il y a une démocratie qui est très compliquée, notamment actuellement. Mais il y a quelque chose qui revit. Et donc, on peut y aller aussi pour l'instant, en tout cas, on peut y aller avec l'idée qu'on peut se promener, qu'on peut faire des choses, etc. L'Égypte a accumulé à la fois une révolution, toute une série de reprises en main autoritaires et d'attentats. Les premiers attentats, par exemple, en 2001, il y avait une reprise, il y avait la résilience traditionnelle. Au bout de 6 mois, les touristes étaient revenus. Là, il y a eu une telle accumulation à la fois politique et de terrorisme, que effectivement c'est très compliqué à la fois pour le tourisme de masse, hein, avec les attentats de Sharm el Cheikh, etc., mais aussi pour les destinations plus culturelles.
Vous avez prononcé le mot de résilience, justement, on va en parler. Est-ce que c'est un concept qui peut se développer chez les touristes, finalement? On dit que maintenant les touristes sont de plus non plus résistants face au terrorisme dans leur choix de destination. À voir, à discuter, ce sera juste après Holy Forest. Chez 7 milliards de voisins, nous parlons du tourisme et du terrorisme aujourd'hui. Saskia Cousin, vous nous disiez peut-être qu'il faut parler de résilience. Kevin Girard, vous souhaitiez réagir par rapport aux comparaisons Tunisie. On avait l'un des responsables du tourisme en Tunisie, notamment à Djerba. Et évidemment, on le voit bien, la situation est assez dramatique, tout comme en Égypte. C'était pas d'ailleurs des destinations traditionnelles hein, pour votre agence Expoint Afrique.
Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est vrai que nous on fait pas de tourisme de masse, sans côté péjoratif de la chose hein, évidemment, et c'est vrai qu'on envoyait très peu de personnes en réalité sur la Tunisie et très peu de personnes sur l'Égypte. Mais je voudrais quand même réagir par rapport à ça, parce que nous on a observé quand même un phénomène qui a été flagrant et qui a sonné le glas en réalité de la fréquentation de certaines destinations notamment, qui sont pas forcément celles dans lesquelles se sont passés en fait des événements. On a eu chronologiquement en fait l'assassinat d'Hervé Gourdel en fait en septembre 2014, et puis après a suivi quelques mois après, justement, vous parliez des attentats de Sousse, et là je crois que pour notre
là,
forme de
vous
tourisme,
parlez de l'Algérie, de la Kabylie, mais c'est pas un pays qui reçoit traditionnellement des bastions de touristes.
Non, pas du tout, justement. Mais justement, c'est vrai qu'il y a eu un sentiment de terreur généralisée suite à cela, et c'est vrai que là, en l'occurrence,
forme de vase communicant.
Par la force des choses. Et c'est vrai qu'on peut, si on veut intellectualiser le problème sur quelle est la différence entre telle destination, pourquoi on n'y va pas ou pourquoi on n'y va pas, je crois que le problème il est vraiment global. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens ont peur. Et quand ils ont peur, il faut savoir que le tourisme, c'est pas un produit de première nécessité. Hein, ce sont des vacances, c'est du plaisir. Et que quand ils peuvent faire autrement, eh bien du coup, et lorsqu'ils ont d'autres solutions, eh bien finalement ils passent à autre chose. Et en réalité, vous l'avez introduit dans votre émission, on s'appelle plus Point Afrique, maintenant on s'appelle Point Voyage, et aujourd'hui pour nous c'est évidemment une question de survie, puisque notre fréquentation africaine est trop faible pour pouvoir survivre, mais tout simplement en s'appelant Point Voyage, on a décidé d'aller chercher les flux où ils se trouvaient. Les flux existent toujours, c'est ce que vous introduisiez tout à l'heure, les flux existent toujours, mais plus là où on les attend. Donc on peut se poser toutes les questions du monde. Est-ce qu'il faut des hôtels, réformer les hôtels? Est-ce qu'il faut enfermer les touristes, pas les touristes? Les gens, quoi qu'il arrive, et nous c'est ce qu'on observe, ont peur. Et donc du coup, ça déborde sur d'autres destinations également, qui les condamnent malheureusement.
Alors d'autres destinations, Cuba est à la mode, la Birmanie, l'Iran, il y a toujours eu en fait hein, ce système de manège où des pays se retrouvaient sous les feux de l'actualité et donc étaient en déshérence, et puis d'autres qui profitaient de ce malheur-là, ça se qui a cousin.
Oui, tout à fait. Alors, il faut distinguer la Birmanie ou l'Iran, où là, vous avez un tourisme qui n'est pas du tout du tourisme de masse. Hein,
de gens qui
partaient avant, par exemple, au Mali. Et puis, ce qui fait le cœur de l'industrie touristique par rapport aux Tunisie, où on va dire des séjours de vacances et non pas de tourisme, dans un hôtel ou dans un resort. Et là, où on va plutôt avoir un retour vers l'Europe, Croatie, Grèce. L'été dernier, la Grèce a fait une saison qui était considérée comme assez extraordinaire parce qu'il y avait ce retour. Donc il faut distinguer les autres. Il y a des gens qui vont tracer de nouveaux chemins avec les opérateurs comme Point Voyage, et puis il y a les gens qui vont en fait choisir un circuit, ce qui va l'intéresser, enfin pas un circuit mais un modèle, ils volent 8 jours dans un hôtel 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, et donc en fait finalement, contrairement à tous les discours potistes qui disent que le tourisme ne peut pas être délocalisé, si en fait, c'est la preuve que le terrorisme a un impact entre autres, et que du coup les gens vont choisir une autre destination considérée comme interchangeable, ce qui n'est pas le cas du tourisme culturel, ouais. Où là on va être dans une recherche de quelque chose de particulier.
Depuis le début, on parle du tourisme à l'occidental et du tourisme occidental. On est bien 7 milliards aujourd'hui. Il y a les Chinois qui voyagent. Il y a des classes moyennes qui se développent dans des pays où elles n'existaient pas il y a 20 ans.
Alors, en ce qui concerne, par exemple, pour la Chine, pour la France, c'est une destination c'est des touristes qui sont devenus un élément majeur les touristes chinois à Paris. Par rapport aux attentats de janvier, il semble qu'il y a quand même eu une grosse hausse de l'arrivée des touristes chinois. Donc, il y a une demande sécuritaire. Je crois que c'est touristes japonais qui ont annulé.
Le nombre de touristes à l'échelle mondiale augmente.
Oui, tout à fait.
Pour le 2015, c'est pour ça que c'est encore prévu à la hausse pour 2016.
C'est pour ça que je disais que d'un point de vue global, d'un point de vue général, le tourisme comme industrie se porte très bien. Mais simplement, il y a une recomposition des lieux et des touristes. Et les touristes chinois, par exemple, vont avoir un certain nombre de freins à venir à Paris à cause des attentats, mais de toute façon, ils n'allaient pas au Mali, en tout cas pas pour le moment. Et après, il y a un tourisme domestique qui se national ou de voisinage, par exemple, les classes moyennes nigérianes qui viennent au Bénin, qu'on ne voit pas du tout, qui ne sont pas dans notre radar.
Alors, mais où vont ces classes moyennes nigérianes au Bénin, par exemple? Que peuvent-elles trouver comme attrait au Bénin?
Alors, pas souvent, c'est des courts séjours, si vous voulez. C'est comme les Parisiens qui vont passer un week-end à Londres, c'est de 3 jours pour visiter le Bénin, ou aller voir de la famille, ou passer justement 3 jours dans un hôtel avec une offre.
C'est ça, mais c'est quand même souvent lié à un voyage familial, non à un prétexte familial. Est-ce qu'on peut appeler ça aussi réellement du tourisme? Est-ce qu'il y a une classe moyenne en Afrique qui aurait envie, dans les années à venir, de décider de visiter son propre pays ou un pays voisin ou sa sous-région, juste dans le but de visiter sans but familial ou fête religieuse ou...
Moi, j'ai particulièrement travaillé là-dessus. Il y a ça. Alors, ça se voit pas parce que souvent, c'est les jeunes, il y a un désir d'aventure et que ce désir d'aventure, les gens vont prendre des bus, etc. Ils vont prétexter la visite à une vieille tante de pays plus loin. Mais en fait, ça le voit pas, ça ne rentre pas dans les statistiques de ce tourisme. Mais le désir d'aventure, le désir d'aller voir ailleurs, le désir de découvrir, il est universel. Après, forcément, ça rentre pas forcément dans les statistiques de l'Organisation mondiale du tourisme. Mais ça existe. Et après, la question c'est, est-ce que socialement on peut dire que on va faire du tourisme? Non. Et donc on va trouver d'autres.
Alors, est-ce que par exemple, le Bénin est conscient de ce potentiel-là, d'accueillir des jeunes Nigérians qui gagnent leur vie, qui ont envie de s'abuser? Est-ce que ces pays-là sont capables d'imaginer une offre, de proposer quelque chose à ces nouvelles curiosités qui émergent?
J'en sais rien, je me dis que c'était peut-être l'objectif de la route des pêches, qui est un modèle type, comme ils ont été construits dans les 60, on dégarpille les pêcheurs, on coupe les palmeraies, on construit des hôtels, ce qui va être terrible d'un point de vue écologique, mais qui aussi ne fera pas venir
Bénin,
les touristes au Bénin, qui ne fera certainement pas venir les touristes occidentaux.
Pourquoi
Parce qu'il y a cette peur qui est liée, et puis qu'on est en zone 3 palus, etc. Et je ne pense pas qu'on fera une nouvelle côte tunisienne dans le sud du Bénin. Par contre, peut-être que l'objectif, c'est de s'adresser aux classes moyennes de la sous-région.
Kevin
Girard.
Oui,
je pense que bon, c'est encore un peu prématuré pour dire que les Béninois s'intéressent en fait à un tourisme nigérian ou de voisinage, bien évidemment. Je pense que malheureusement, ils se tournent encore vers les Occidentaux en pensant que le modèle touristique universel est celui représenté par les Occidentaux, malheureusement. Alors, moi, je voudrais juste revenir sur la Tunisie, tout simplement parce que je trouve dommage qu'on veuille aujourd'hui réformer ou tenter de réformer, de se poser en tout cas les questions. Est-ce que le tourisme de masse ou le tourisme hôtelier est la bonne solution et une des réponses? Vous l'avez souligné, le problème c'est que maintenant c'est toute la planète qui voyage, et nous on a pu s'en apercevoir bien évidemment sur certaines destinations où on essayait de capter en fait l'intégralité de la planète pour pouvoir maintenir certaines lignes aériennes, et on s'est aperçu que les gens selon les nationalités voyageaient pas forcément pour la même chose, et le modèle qu'on s'était fixé, qui était le modèle franco-français en ce qui nous concerne, nous, en réalité il était complètement biaisé et faux quand on s'adressait à des nouveaux voyageurs. Je pense par exemple, on a fait beaucoup voyager de Polonais. Les Polonais ont des attentes complètement différentes de celles des Français.
Ah oui.
Voilà, et on n'imaginait pas. Eh bien, tout simplement, un tourisme beaucoup plus simple, moins recherché, moins culturel, mais ils ont soif de nouvelles aventures, il est moins poussé, moins intellectualisé, entre guillemets, pour le moment, et puis ça évoluera, mais je crois que, bon, voilà, le tourisme se redessine complètement, en termes de destination, mais en termes de voyageurs, tout
simplement. Affaire à suivre, donc, hein, chez les 7 milliards de voisins. Merci à tous les deux d'être venus. Saskia Cousin, vous publiez Sociologie du tourisme avec Bertrand Réau aux éditions La Découverte. Kevin Girard, donc vous êtes le directeur général de Point Voyage, à retrouver bien sûr sur Internet. Merci à vous les voisins pour vos messages et vos appels. Et merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Néran, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi, au standard auditeur. Pour toutes vos réactions, vous pouvez aussi nous écrire 7milliards@rfi.fr. Demain, 7 milliards de voisins, les frontières invisibles des villes, entre riches et pauvres, entre opulence et délabrement, entre quartier tranquille et coupe-gorge. On en parle. À demain. Le concours du club.